franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, les glaciers des Kerguelen menacés par la sécheresse.
Le recul de la calotte glaciaire, l'un des plus rapides au monde, c'est un effet visible des changements climatiques. Depuis une dizaine d'années, le climat des Kerguelen est marqué par des sécheresses estivales récurrentes et un vent qui se renforce encore.
Et les glaciers situés en bordure des régions de climat polaire sont extrêmement sensibles au changement climatique. Et dans une étude qui vient de paraître dans la revue Scientific Reports, une équipe de chercheurs a montré que la sécheresse donc était la principale cause du retrait des glaciers de l'archipel des Kerguelen. Bonjour Vincent Favier.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes physicien adjoint au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement à Grenoble et vous êtes le premier auteur de cette étude. Alors là, vous avez travaillé sur le plus gros glacier français, la calotte de Cook, c'est son nom. Il se situe dans la zone antarctique. Quelle est sa taille à peu près ?
Alors c'est en gros 500 km², c'est deux fois plus gros que la surface des glaciers sur le territoire national dans les Alpes françaises.
Et donc vous observez un véritable recul aujourd'hui sur ce glacier ?
Alors, on a effectué des travaux à partir de données de terrain et puis à partir de données satellitales. Et lorsqu'on regarde les volumes perdus sur la calotte Cook, ça fait partie des records du monde de pertes à l'échelle planétaire.
C'est-à-dire ?
Donc, on perd en gros une épaisseur de 1,60 m par an de glace. C'est-à-dire que sur 500 km², on perd une moyenne de la taille d'un homme, à peu près.
Ouais. Et cette diminution, elle a commencé quand, à peu près ? On arrive à le savoir ?
Donc on a fait des études et on a retrouvé en fait les extensions passées grâce à des travaux antérieurs qui nous montraient que vers 1850, les extensions étaient relativement similaires à ce qu'on avait jusqu'en 1960. Et à partir de là, le recul a commencé et s'est très fortement accéléré au cours des 25 dernières années.
Donc c'est 18% de la taille totale, je crois, de ce glacier qui a reculé depuis les années 60. C'est absolument colossal pour la taille d'un tel glacier.
Alors c'est colossal et c'est d'autant plus impressionnant quand on regarde en perte de volume. Pour vous donner un ordre d'idée, la première fois où je suis arrivé sur le glacier, en 2010, on montait sur le glacier à un endroit et deux ans plus tard, il fallait descendre 30 mètres de plus pour pouvoir arriver sur le glacier, ce qui est vraiment considérable. C'est la première fois que je voyais des pertes aussi énormes.
Vous observez une accélération aussi de ce phénomène ?
Alors on observe une accélération très forte depuis 1975 qui est liée justement à l'accroissement de cette sécheresse. Donc il faut voir que la perte de précipitations sur ce secteur est de l'ordre de... Enfin on a divisé par deux les précipitations sur l'archipel. Si c'était le cas en France, je pense que les agriculteurs ne seraient pas très heureux.
Alors Vincent Favier, dans cette étude, donc, vous annoncez que la cause principale du recul, ça n'est pas le réchauffement climatique comme on pourrait s'y attendre, mais la sécheresse. Comment est-ce qu'on parvient à cette conclusion exactement ? Parce que c'est complexe à étudier.
Alors on a utilisé des modèles glaciologiques et on a profité du fait que sur place il y a un effort très important qui est fait par la France et par l'IPEV pour pouvoir avoir une base sur place. Donc on avait des données météorologiques depuis 1950.
C'est l'Institut Paul-Émile Victor, c'est ça qui vous a permis d'avoir ces relevés ?
Oui, c'est ça, oui. Et puis Météo France qui a sa station météorologique depuis 1950 sur ce secteur. Donc ça nous a permis d'alimenter un modèle glaciologique et qui nous a permis de reconstituer les pertes de masse sur les 50 dernières années. Et on constate que les trois quarts de la perte sont dues à la sécheresse et que cette perte a été accélérée par le réchauffement qui est quand même notable sur ce secteur.
Donc c'est la glace qui vous permet d'enregistrer les variations du climat ?
Ah là oui, là c'est vraiment la glace qui nous permet... Il y avait déjà des études faites sur la végétation qui montraient qu'il y avait une sécheresse, mais on ne pensait pas qu'elle était aussi majeure. Et là, on s'aperçoit vraiment que les conséquences sont dramatiques dans ce secteur.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement pour que la sécheresse soit plus importante ces dernières décennies sur cette zone ?
Alors, il faut savoir qu'on se trouve dans un secteur où les dépressions ont tendance à passer en permanence, ce qu'on appelle le rail des dépressions. Et avec le réchauffement climatique, on a tendance à augmenter les températures aux moyennes et aux basses latitudes, c'est-à-dire entre Kerguelen et l'équateur, alors que du côté du pôle sud, en Antarctique, le trou d'ozone a créé un refroidissement, ce qui fait qu'on a... augmenter le gradient de température. Et le problème, c'est que dans l'atmosphère, qui dit changement de température dit changement de pression, ce qui fait qu'on a changé aussi les lieux de forte pression et de faible pression, ce qui a déplacé vers le sud, en fait, les dépressions. Et donc, les dépressions ne passent plus sur Kerguelen et viennent flirter avec l'Antarctique, maintenant.
Ouais. Donc, ce sont toute la dynamique, au fond, qui a été modifiée ces dernières années.
Et c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on entend toujours parler de réchauffement climatique, alors qu'il faut bien dire aux gens que le changement climatique, ce ne sont pas que des changements de température, il y a aussi des problèmes de circulation atmosphérique qui vont s'opérer, et donc des diminutions de précipitations qui s'opéreront dans certaines régions.
La responsabilité, la part de responsabilité justement de la sécheresse par rapport au réchauffement climatique sur ce phénomène de recul des glaciers, on arrive à l'évaluer, Vincent Favier, à peu près ou pas ?
Alors à Kerguelen, là, c'est les trois quarts.
Les trois quarts sont liés à la sécheresse.
Oui, c'est ça.
Et donc le réchauffement climatique, indirectement, joue un rôle quand même sur ce phénomène.
Donc il joue directement pour un quart, et indirectement, il joue clairement sur le déplacement en fait, des fronts, enfin, le déplacement des dépressions beaucoup plus au sud. Mais le trou d'ozone est pour l'instant le facteur prédominant. Mais dans le futur, le trou d'ozone va se résorber. Par contre, l'augmentation du réchauffement climatique fait que ce phénomène devrait se poursuivre et que les dépressions devraient continuer de circuler au sud de Kerguelen.
Ouais. Qu'est-ce que ces observations vous apportent sur votre compréhension justement du climat ?
Ouais, elle nous apporte déjà beaucoup parce que on a tendance toujours à penser lorsqu'on fait des prévisions d'évolution future des glaciers, on travaille avec des modèles qui reproduisent très bien la température mais assez mal les changements de précipitation à des échelles assez fines. Et là ça nous montre vraiment qu'il y a de fortes incertitudes dans ces régions-là où les changements de circulation s'opèrent et s'opéreront dans le futur. Donc ça nous donne vraiment une idée des incertitudes sur l'évolution des glaciers.
Est-ce que ça remet en cause aussi la façon dont on travaille sur les modèles de déplacement de la masse d'air par exemple?
Ça ne les remet pas en question. Par contre, ça demande aux chercheurs et aux modélisateurs de travailler beaucoup plus sur la finesse des processus. On arrive à peu près à reproduire ces processus, mais on ne les place pas vraiment au bon endroit et pas avec l'intensité suffisante. Donc ça demande encore du travail pour améliorer la finesse de nos modèles.
Vincent Favier, vous faites des projections également sur l'avenir pour imaginer la vitesse et l'avenir de ce glacier ?
Alors on a fait des projections et on utilise justement les simulations actuelles et les simulations actuelles montrent déjà que le glacier devrait disparaître sans prendre en considération les défauts qu'ont les modèles sur la perte de précipitation dans ce secteur-là. Et donc a priori sur les 2-3 prochains siècles, la calotte devrait disparaître puisque on pense qu'en plus des changements de température, les précipitations devraient rester faibles.
Quelles pourraient être les conséquences de la disparition de la calotte glaciaire justement dans cette zone du monde ?
Alors cette zone, ça reste quand même dérisoire. Par contre, il faut bien s'apercevoir que le changement de circulation atmosphérique affecte maintenant certainement l'Antarctique, mais en sens inverse. C'est-à-dire que maintenant, les dépressions sont en train de taper sur la calotte et on devrait avoir une augmentation des précipitations sur la calotte. Ce qui serait donc un transfert d'eau depuis les océans sur la calotte et ce qui serait une bonne nouvelle pour l'augmentation du niveau des mers. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'observe rien en Antarctique. Le problème, c'est que l'Antarctique, c'est très vaste et qu'on a très peu de données sur ce continent. Et c'est pour ça que l'année prochaine, on partira faire une traverse scientifique en Antarctique pour aller étudier une zone inexploré et sur une très grande distance puisqu'on va faire à peu près 1600 km de terrain inexploré pour évaluer si le changement climatique a déjà un impact ou pas sur l'augmentation des précipitations en Antarctique ou pas.
Ouais, et j'imagine que vous allez vous confronter à des températures extrêmes là où vous irez ?
Alors, extrême, peut-être pas. Ça sera en gros de l'ordre de moins 20, moins 25 degrés. Par contre, on va se trouver dans une zone où il y aura énormément de vent.
Et oui.
On est sur la zone côtière, donc c'est le vent katabatique, le fameux vent katabatique, et qui nous oblige donc à travailler dans des conditions un peu particulières, avec des caravanes, des équipements pour se protéger. Et puis, bien entendu, là encore, l'IPEV et tous mes partenaires, donc le LSCE, le LEGOS, etc., sont fondamentaux pour pouvoir arriver à faire ces travaux dans de bonnes conditions. C'est vraiment un travail d'équipe.
Merci beaucoup Vincent Favier pour vos explications donc à l'occasion de cette publication dans la revue Scientific Report donc sur le recul de la glace dans cette zone des îles Kerguelen. Merci beaucoup d'être passé à la Une de la Science aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Je vous remercie. Au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Mars comme si vous y étiez, le robot Curiosity qui vient de livrer une nouvelle moisson de clichés en haute définition et en couleur de la région de Murray Butters au pied du Mont Sharp. Ces images rappellent le Grand Canyon ou le désert de l'Arizona et leur étude a permis de mieux comprendre la formation de ces dunes de sable composées de vestiges érodés de roches sableuses et de grès. Curiosity va maintenant partir vers le sud pour poursuivre l'ascension du Mont Sharp à la recherche de roches formées en présence d'eau liquide. Vous pouvez voir ces photos qui tournent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de la Tête au Carré. La Lune serait-elle à l'origine de certains séismes? Selon une nouvelle étude publiée dans Nature Géosciences, une fraction des tremblements de terre les plus meurtriers se produisent pendant les périodes de pleine et de nouvelle Lune. C'est pendant ces périodes que la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, augmentant la force des marées terrestres et donc la pression sur les failles géologiques. Pour les chercheurs, les grands tremblements de terre, comme ceux qui ont dévasté le Chili en 2010 ou le Japon en 2011, se produiraient donc davantage pendant ces périodes, même si ce phénomène est loin d'être le déclencheur de telles catastrophes. Et puis c'en est fini de la règle des 5 secondes, ce laps de temps court qui est réputé pour ne pas laisser le temps aux bactéries de contaminer un aliment lorsqu'il tombe par terre. Et bien une étude menée à l'université Rutgers aux États-Unis et publiée dans la revue Applied and Environmental Microbiology risque de contredire cette croyance populaire. Des échantillons de pain, de bonbons et de melons ont été laissés en contact durant des temps différents avec diverses surfaces et ont ensuite été examinés. Et le verdict est sans appel, dès la première seconde, les bactéries débutent leur colonisation. Et plus le temps passe, plus celle-ci est grande.